Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 188. Et aujourd'hui, on parle de travail aspirationnel et de labeur invisible sur les réseaux sociaux.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que je vous retrouve en pleine forme. Aujourd'hui, on a un petit flashback dans le temps avec l'épisode d'aujourd'hui que j'avais enregistré sur Instagram au début de l'année 2025. Et pour moi, c'est un épisode que j'avais l'intention de vous partager, mais qui, suite à l'épisode 187, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller l'écouter, ça apporte une dimension que je trouvais intéressante autour du travail aspirationnel, du travail invisible souvent que les femmes et autres personnes marginalisées font dans la société at large et qui se réplique aussi dans notre façon d'investir le web. Et je pense que c'est une discussion importante parce que on vit dans un drôle de shift économique où les opportunités qui nous sont ouvertes par le web sont contrebalancées souvent par un nouveau type d'exploitation qu'on voit un peu moins parce qu'on n'est pas tellement, on le reconnaît pas comme étant de l'exploitation en soi parce qu'il nous fait miroiter des carottes auxquelles, tu sais, qu'on désire, comme la reconnaissance, l'argent, les business qui fonctionnent et des choses comme ça. Et comme entrepreneur du web, on est particulièrement en danger de tomber dans ce piège, surtout quand il est question de la production de contenu. Puis si vous voulez approfondir un peu le sujet, j'ai d'autres ressources, notamment j'avais un épisode où je parlais de contenu gratuit et injonction de générosité et pourquoi les femmes sont particulièrement victimes de cette mentalité-là. Donc je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode, c'est un autre épisode de l'Ambition féminin. Et aussi, j'en ai parlé dans un article dans mon blog dans le journal Les Affaires. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez aller lire ça en complément avec l'épisode d'aujourd'hui. Et enfin, peut-être une dernière chose que je veux mentionner, parce que si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine passée, ce qui est intéressant ici à se rappeler, c'est qu'on est dans une transition en ce moment avec l'Ambition féminin, avec mon podcast, qui va bientôt se clore pour laisser place à un nouvel espace de réflexion, un nouveau podcast qui va s'appeler L'Entremonde et dans lequel on va parler de comment est-ce qu'on fait pour exister et prospérer dans l'infosphère. L'infosphère étant notamment le web, toute cette économie de l'information dans laquelle on n'a pas été mentoré, on ne sait pas exactement comment interagir avec cet environnement-là, outre que par essai-erreur, et parfois ça peut nous coûter notre santé mentale, ça peut nous coûter notre paix d'esprit, et en même temps, il y a aussi de belles opportunités qu'on peut aller chercher là-dedans. Donc, on s'approche tranquillement de la clôture de ce podcast, mais d'ici là, on va continuer à réfléchir ensemble à des questions qui touchent autant à qu'est-ce que c'est d'exister comme femme, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans le contexte professionnel actuel, dans les différents modèles de réussite qui nous sont offerts notamment par le web. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation sur le travail aspirationnel. Et comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des réflexions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou par courriel. Je suis toujours très heureuse de suivre vos propres réflexions. Instagram, bonne nouvelle année. J'espère que vous avez profité de votre temps des fêtes, que vous entrez dans 2025 avec pause et harmonie. J'avais envie, c'était très non planifié, de vous faire un petit live à propos d'une réflexion que j'ai beaucoup ces temps-ci, notamment en rentrant dans cette nouvelle année, en posant mes objectifs d'entreprise, en réfléchissant à ce qui s'est passé en 2024, qui pour beaucoup a été une année difficile, puis je ne vais pas le cacher, pour moi aussi ça a été un chamboulement dans mon façon de faire de la business, faire du marketing, servir mes clients. Beaucoup de réflexions autour de comment je m'investissais dans mon identité professionnelle, notamment à travers l'entrepreneuriat. Et une des grandes réalisations, naturellement, ça a été, c'est quoi la place que je tiens et que je veux tenir par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la création de contenu. Puis pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai commencé mon entreprise vraiment en lien avec la création de contenu. La création de contenu, pour moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à bâtir un brand, qui m'a aidé à transformer mes idées, ma vision en une réelle entreprise. C'est comme ça que je me suis fait connaître. C'est comme ça que j'ai développé mes réseaux et tout ça. Donc, je suis une grande fan de la création de contenu organique. Je suis une grande fan de l'utilisation de notre voix, de nos mots pour laisser une marque, laisser une trace qui est positive, qui est transformatrice pour les gens. Ceci dit, dans les 2 ou 3 dernières années, puis c'est drôle, je faisais des petites recherches, puis ça fait beaucoup plus longtemps que ça que j'ai une relation d'amour-haine avec les réseaux sociaux. Mais surtout l'année passée, avec tout ce qui se passait au niveau, de la Palestine, puis de tout ce qui se passe au niveau aussi des disturbances, des choses qui se passent dans le monde, plus je venais sur les réseaux sociaux pour créer du contenu, plus je me sentais aspirée dans un gouffre, dans un maelstrom de toxicité. Et aussi, avec les changements d'algorithme et tout ça, c'est sûr qu'il y a comme une adaptation qui doit être faite. C'est sûr que, bon, comme entrepreneur, on est des êtres adaptatifs, on doit s'adapter aux nouvelles façons de faire. Je suis une marketeuse dans l'âme, dans le sens que j'ai étudié le marketing, j'ai fait du marketing pendant 15 ans, puis ça fait partie de la game de s'adapter aux nouvelles façons de faire. Ceci dit, la dernière année et demie, je me suis beaucoup mis à réfléchir à l'éthique autour de la création de contenu. Et si on n'est pas en train de se faire tous exploiter à travers les heures et les heures qu'on met à produire sans nécessairement avoir de rétribution pour beaucoup d'entre nous. T'sais? C'est pas tout le monde qui va faire les 100, 200, 500, 1 million avec du contenu organique, des reels viraux et tout ça, même si beaucoup de l'économie en ligne, beaucoup de l'entrepreneuriat en ligne, de l'infopreneuriat se base sur cette prémisse pour vendre des formations, pour vendre des programmes et pour décoder comment on fait justement pour tirer son épingle du jeu. Puis là, je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire, que je trouve super intéressant, puis qui m'avait servi à faire mes applications doctorales l'année passée. Ça s'appelle Getting Paid to Do What You Love. Puis en parenthèse, il est écrit Not Getting Paid to Do What You Love. Gender and Aspirational Labor in the Social Media Economy. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire ne pas être payé pour faire ce que tu aimes, le genre et le travail aspirationnel dans l'économie des réseaux sociaux. Et c'est une des multiples chercheurs qui s'intéresse à la place du travail invisible, hein, du labeur invisible des femmes, notamment dans une économie digitale. Puis c'est ça qui devient intéressant dans un travail comme le mien, hein, qui est ouvertement féministe, dans lequel je prône la création de contenu, la création de marques pour justement trouver des modèles alternatifs d'existence. Beaucoup de mes clients sont neurodivergents, beaucoup de mes clients ont des maladies chroniques ou peuvent pas exister dans le marché du travail régulier et donc sont menés vers l'entrepreneuriat. Et quand on est mené vers l'entrepreneuriat, ben souvent tout ce qu'on a comme force marketing, c'est nous-mêmes, c'est notre cerveau, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est la place où il y a le plus de monde et où ça demande le moins d'investissement en argent et non pas en temps. Ceci dit, quand on commence à réfléchir au genre et au travail aspirationnel, qu'est-ce que ça veut dire, travail aspirationnel? Ça veut dire qu'on nous promet quelque chose, hein? On fait du travail dans la promesse d'un résultat futur, comme par exemple, si vous êtes familier avec les stages, hein, c'est le même principe. Si tu travailles pendant 3 mois pour cette compagnie et que tu te fais payer très peu ou pas du tout, il y a certains stages qui sont encore non payés, puis c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup manifesté quand j'étais moi-même étudiante. Les stages non payés, ben quand on regarde ça, tu sais, jusqu'à un certain point, c'est de l'exploitation, surtout que les personnes qui offrent des stages non payés, bien souvent le font sous prétexte que la notoriété de la marque permet aux stagiaires, après ça, d'avoir quelque chose à mettre sur leur CV, puis éventuellement s'ouvrir des portes. On s'entend, hein? Un stage non payé, même si tu as un nom sur ton CV, ça reste du travail non payé. Ça reste du bénévolat et souvent c'est demandé par des entreprises qui font énormément d'argent et qui ont les moyens de payer les personnes qu'ils engagent, peu importe si c'est un stagiaire ou non. Bref, c'est juste pour mettre un contexte sur qu'est-ce que c'est du travail aspirationnel. Et un des arguments de ce livre dont je parle, que je suis en train de lire en ce moment, c'est que les femmes en général, qui sont dans des industries créatives, qui sont dans des industries de consommation aussi, comme par exemple le e-commerce ou l'artisanat ou des milieux créatifs comme même la création de contenu pourrait en être un, la gestion de réseaux sociaux, des choses comme ça. Tous ces milieux-là qui sont créatifs ou qui sont adjacents au milieu créatif, on parle aussi de la mode, on parle aussi de des blogueurs, bref, toutes ces choses-là, ben, ça donne que c'est majoritairement féminin parce qu'on vient chercher cette vision de l'aspiration mêlée à notre identité qu'on est en train de créer à travers la création de contenu. Donc oui, le contenu, comme par exemple ce live Instagram, comme par exemple mes publications sur les réseaux sociaux, ça nous permet de nous exprimer, puis bien souvent, ça va être le sous ce couvert-là qu'on va se dire que, ben dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment grave si j'ai juste travaillé 10 heures aujourd'hui puis j'ai fait 200$? Est-ce que ça vaut la peine de, tu sais, on commence à rentrer dans ce modèle de réflexion économique où on fait constamment du travail gratuit. Et les algorithmes, les plateformes sociales comme Meta, ils comprennent très bien cette dynamique-là, hein, parce que ces plateformes-là, elles vivent de par le contenu gratuit qui est généré. Même chose qu'une marque qui va demander à ses clients de créer du contenu pour eux pour ensuite peut-être les utiliser dans leur publicité, va bénéficier du travail créatif, hein, gratuit de personnes qui sont souvent des amateurs, parfois des professionnels, mais le plus souvent qu'autrement entre les deux identités, entre amateurs et professionnels. Ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs en ligne, hein, beaucoup de personnes avec qui je travaille notamment, qui sont dans cette transition entre ben, « je faisais ça comme hobby, là, maintenant je veux que ce soit professionnalisé » ou bien genre, « j'essaie genre, de devenir une pro dans telle industrie » et c'est pour ça que je me mets à créer tout ce contenu gratuitement. Donc la réflexion ici, c'est de se dire, bon, on est dans une industrie qui est majoritairement féminine, majoritairement des espaces créatifs et majoritairement non payés ou sous-payés. Puis là, si vous regardez les salaires qu'on paye aux gestionnaires de communauté, les salaires qu'on paye aux créatrices de contenu, aux rédactrices, tu sais, c'est évident que ce sont des domaines d'expertise qui sont généralement quand même très difficile qui ont des rémunérations très basses. Fait que, réfléchissant à tout ça, tu sais, moi, ça me fait beaucoup me questionner sur comment est-ce qu'on peut faire de la création de contenu qui va réellement nous servir. Parce que, à quelque part, moi, ça m'intéresse pas d'apprendre à d'autres femmes à se faire exploiter par les plateformes sociales. Ça m'intéresse pas à mettre sous couvert de féminisme le fait qu'on va venir se montrer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, faire des Reels, faire des challenges de Reels, alors qu'à la fin de la journée, hein, on se fait voler notre temps, on se fait voler notre énergie, puis il y a rien au retour de ça, il faut qu'on aille se trouver une job à temps plein, puis tout ça, c'est sous couvert de « visibilité », entre guillemets. Puis bon, j'ai beaucoup à dire sur le fameux terme de visibilité, mais ce que je veux dire ici, c'est que comment est-ce qu'on fait de la création de contenu qui n'est pas exploitative, qui ne nous exploite pas nous-mêmes dans nos opérations ou dans notre marketing ou dans notre façon genre de se présenter au monde, de créer des brands. Puis c'est là genre qu'il y a comme une grande réflexion pour moi autour de qu'est-ce que ça veut dire du contenu organique, comment est-ce qu'on bénéficie des algorithmes et c'est quoi les limites qu'on se pose aussi en termes de ce qu'on veut investir. Moi, cette année, c'est la première année en 2024 où j'ai vraiment investi intentionnellement dans la publicité à l'année longue, la publicité de marque, parce que justement, je voulais commencer à me retirer petit à petit des plateformes sociales. Je vais pas me retirer complètement, comme vous voyez, je fais encore genre des lives, je fais des stories puis des choses comme ça. Ceci dit, hein, de plus en plus, je me sentais tiraillée ou forcée à devoir venir m'adapter constamment à ces algorithmes qui, ultimement, n'en ont rien à faire de moi, de la qualité de mon contenu ou des choses comme ça. Même chose s'est passée sur LinkedIn. Bref, je vous épargne les détails. Mais, donc la question, c'est comment est-ce qu'on crée du contenu de façon éthique, mais éthique par rapport à nous-mêmes, par rapport à comment est-ce qu'on veut protéger notre énergie, comment est-ce qu'on veut protéger notre créativité, comment est-ce qu'on veut protéger nos actifs et créer des choses qui vont vivre à travers le temps puis qui vont pas constamment venir nous gruger de l'énergie, constamment venir nous manger notre énergie qui est quand même limitée, tu sais, puis on s'entend comme on est déjà assez sous-payé par nos emplois bien souvent, pourquoi est-ce qu'on irait créer des écosystèmes entrepreneuriaux dans lesquels on continue à être sous-payé, on continue à être exploité, on continue à aller dans des stages non payés au nom de la visibilité. Puis c'est là que pour moi, repenser à ma façon d'enseigner la création de contenu puis d'enseigner comment créer un écosystème marketing qui fait du sens pour nous, ça a comme un peu tilté parce que je me disais, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec l'idée de marketing? Tu sais, l'idée de montrer aux gens à se vendre dans un environnement qui est particulièrement pensé et réfléchi pour les exploiter. Puis je vous avoue que c'est comme une question difficile parce que d'un côté, on n'a pas full le choix, on vit dans ce système-là, on est dans un modèle capitaliste et le modèle capitaliste est basé sur ce type d'exploitation. Maintenant, est-ce que on peut nous mettre en place des systèmes, est-ce qu'on peut nous mettre en place des limites qui nous permettent de ne pas simplement s'exploiter dans ce système-là sans en être conscient et en rêvant, en aspirant à un jour être découvert ou à un jour avoir la viralité? Ben c'est là genre que moi je pense que il y a une réflexion à faire collectivement, mais moi, je me porte garante aussi comme professionnelle du marketing, comme coach féministe, etc., à la faire et à voir, ben, où est-ce qu'on veut mettre nos efforts. Puis pour moi, c'est clair que on a certains piliers dans lesquels il faut travailler, comme par exemple, je parlais avec une avec une autre de mes clientes, mais qui est aussi dans un domaine adjacent à moi, où on voyait ben, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, maintenir notre essence créative tout en restant adapté à la technique, tout en s'adaptant par exemple, aux besoins des algorithmes. Là, on parle particulièrement du SEO, du blogging, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait après ça pour vendre dans des infolettres ou pour présenter nos produits tout en créant des univers qui vont être authentiques et pas simplement genre recracher du ChatGPT ou des modèles qui ont déjà été faits ou des courriels types qui ressemblent à tous les autres courriels types qui focus sur le manque, sur l'absence genre de quelque chose dans notre vie qui est genre le fondement capitaliste de la, t'sais, notre façon genre de consommer et de surconsommer, surtout ce qui existe aussi dans le monde de l'infopreneuriat, t'sais, faut pas se le cacher. Donc pour moi, ça va être vraiment ça mon défi cette année, si bien que jusqu'à un certain point, je sens de plus en plus cette distanciation avec le monde du marketing, mais le fait d'avoir baigné dedans pendant une quinzaine d'années, pendant tout ce temps-là, ça me permet quand même de le regarder avec critique, puis de le regarder avec un œil de conscience, justement, pour dire, ben comment est-ce qu'on existe dans un environnement toxique de cette façon-là? Et bref, tu sais, genre, je sais que pour certains d'entre vous, tu sais, il est tard, vous allez pouvoir écouter cette vidéo en replay, je vais peut-être même la mettre sur mon podcast « L'ambition au féminin ». L'important ici, c'est juste de se rappeler de ce terme-là, hein, « labeur aspirationnel », aspirationnel dans le sens non payé, et de voir où est-ce que j'accepte de me laisser exploiter, ne serait-ce que par des promesses de succès futur, des promesses de quelque chose qui va éventuellement déboucher pour moi, des promesses que si je suis suffisamment les bonnes pratiques, etc., etc., je vais être une des chanceuses qui va pouvoir se hisser au top, hein, faire le 100 000, faire le 200 000, faire le million. Et comment est-ce qu'on peut déjouer ces rideaux de fumée qu'on nous montre et quand même faire exprimer notre voix, exprimer ce qu'on a à dire, être des agents de changement, aller chercher nos communautés, être capable d'inspirer et de leader le changement sans se sacrifier à la bête. Puis, bon, là, en ce moment, je travaille sur plusieurs choses. Là. C'est sûr que, bon, moi, mon grand focus, ça a toujours été le positionnement de marque. Donc, si vous êtes intéressé à comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans mon univers, j'ai une masterclass gratuite. Vous pouvez aller voir dans le lien en bio. Ça s'appelle « Vue, reconnue, rémunérée et respectée ». Mais sinon, l'autre grosse partie de ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est la création de contenu organique au niveau de notre écosystème. Donc, le blog, hein, les contenus longs, les contenus qui perdurent, pas les contenus instantanés qu'on va regarder pendant 15 secondes, qu'on va oublier après si on n'a pas immédiatement fait une action. Hein, les contenus longs, les créations de communautés, donc le lien avec notre communauté à travers l'infolettre. Nos espaces de vie digitaux, comme par exemple nos sites web, là où on a des contenus qui nous représentent, des contenus qui fonctionnent autant avec les moteurs de recherche qu'avec notre vision, notre créativité, puis tout ça. Puis comment est-ce qu'on existe dans ces espaces-là sans se laisser englober totalement par la constante création de contenu pour constamment nourrir des réseaux sociaux qui ultimement, ont comme but d'exploiter les communautés qui ont le plus souvent été exploitées, les communautés créatives, les communautés féminines, les communautés marginalisées. Donc, je voulais faire ce live juste pour comme mettre un peu la table pour cette conversation. Je pense qu'on va l'avoir davantage au fur et à mesure que les mois... T'sais, que les mois avancent, que les années avancent, que les comportements vont changer aussi au niveau de la consommation, de la de l'utilisation des réseaux sociaux. Je lisais une infolettre que j'avais écrite en 2020 où je disais que je venais de quitter Facebook. Ben là, t'sais, c'est un peu la même chose qui se passe petit à petit sur les autres plateformes parce qu'un jour on réalise, t'sais, comme j'ai travaillé fort pour tout ça, puis du jour au lendemain on me bloque mon accès à mon compte, ou du jour au lendemain on change les règles du jeu, puis moi, j'étais pas un assez gros joueur pour qu'on respecte le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut vivre? Est-ce que c'est le monde qu'on veut continuer à encourager? Ben pour ça, ben il faut aussi être courageux nous-mêmes et prendre des positions par rapport à notre utilisation et à notre marketing et à notre façon de vendre à nos clients. Fait que tu sais, c'est une double invitation ici à se questionner sur notre leadership de soi, notre leadership par rapport aux autres, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est nous qui créons, on est des personnes créatives, on est des personnes qui créent des nouveaux mondes avec nos entreprises, avec nos marques, avec tout ça. Puis si on prend pas les devants pour ces réflexions-là, ben c'est sûr qu'on va pas, on va juste continuer à spinner dans les mêmes cercles, constamment à faire la même chose, éventuellement en s'épuisant et en perdant la fougue, le feu qu'on aurait pu avoir au début. Puis ça, ben un entrepreneur qui fait un burn-out, un entrepreneur qui est plus capable de continuer, tu sais, pour la grande machine capitaliste, c'est on s'en calisse, s'il va en avoir un nouveau qui va venir prendre sa place. Mais pour nous, comme humains, ça reste quand même un drame, surtout si on n'est pas fait pour s'adapter au marché du travail actuel qui est malade de son côté lui aussi. Bref, voilà, je suis toujours curieuse de vous lire, intéressée à avoir ces conversations avec vous. Pour moi, c'est important upgrade un peu le niveau de conversation autour de ces plateformes, autour des technologies, autour de notre façon aussi de produire dans un monde de surproduction et de surconsommation. Et dans le monde digital, ben cette surproduction, cette surconsommation, on la voit pas comme si on accumulait des objets autour de nous, mais on la voit dans notre fatigue cognitive, on la ressent dans notre corps, on la ressent dans notre sensibilité aussi. Aux autres et ouais, nos capacités cognitives. Fait que voilà. Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur Money Brand, il y a des informations dans mon profil. Et même chose pour la masterclass dont j'ai nommé tout à l'heure, vue reconnue, rémunérée et respectée. À bientôt! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au plus niveau. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.